Ma vengeance sera terrible. Je vais me venger. La vengeance est un plat qui se mange froid. Combien de fois a-t-on entendu, ou a-t-on nous-mêmes pensé ou prononcé ces paroles après avoir ressenti des humiliations physiques ou morales? S'il est vrai que notre raison d'adulte, ajoutée à notre éducation et à notre place sociale, freine parfois l'accomplissement de ce type de réaction, notre enfance n'en a pas été exempte. Nous le savons tous. Et aujourd'hui, en plus de tout, notre identité chrétienne nous apprend à refuser la violence, bien entendu à fuir la vengeance, et même encore à tendre l'autre joue et à aimer nos ennemis. Mais est-ce vraiment possible? Voici une illustration probante dans l'actualité récente. Si notre ennemi s'appelle Oussama Ben Laden et qu'il a massacré dans des circonstances terribles des milliers d'innocents, devons-nous aussi l'aimer sans partage? En dépit des ignominies sans nom qu'il a commises, devons-nous l'aimer aussi? Demandons au président Obama, lui qui se dit croyant, si ce dilemme ne lui a pas tracassé la conscience au moment de faire décoller les hélicoptères qui allaient porter la mort au leader d'Al-Qaïda. Et nous, n'avons-nous pas aussi, comme beaucoup dans ce monde, poussé un ouf de soulagement quand nous avons appris que ce sinistre personnage avait été mis hors d'état de nuire, et ce, malgré le commandement d'amour de nos ennemis? Je ne fais pas ici de politique et ne suis pas en train de juger l'action de l'armée américaine et de son chef dans cette histoire. Mais je parle de la difficulté pour un chrétien de faire coexister violence et commandement divin. Comment aimer ses ennemis? Comment ménageons-nous notre intégrité spirituelle ou tout simplement notre identité quand de telles contradictions font irruption dans nos vies? Et à contrario, comment pouvons-nous rester des femmes et des hommes d'action quand notre foi nous pousse à l'inaction devant la tyrannie? Devons-nous nous asseoir sur ce qui fait le cœur de notre identité pour accomplir ce qu'il nous semble être juste? Voilà ici beaucoup de questions bien difficiles. Alors d'abord, nous protestants, qui nous référons en premier lieu à la Bible, est-il bien vrai que dans cette Bible, Premier et Nouveau Testament, sont dépourvus de toute violence et de toute vengeance? Est-ce que le « tu ne tueras point » et le « tendre l'autre joue » s'appliquent complètement dans cette Bible? Non. Non et trois fois non. Et Jésus lui-même était un violent, à sa façon. En tous les cas, pour le Premier Testament, nous le savons tous, et c'est d'ailleurs souvent pour cette raison que nous hésitons à le lire et à le partager en chair le dimanche matin, mis à part quelques jolis textes et quelques psaumes qui ne chantent que l'amour, et encore, faut-il bien savoir les choisir, le Premier Testament rassemble des histoires de vengeance, parfois, souvent, et en tous les cas, une bonne dose de violence. C'est pour cette raison aussi que lorsque des personnes souhaitent entreprendre la lecture de la Bible, nous leur disons ne vous lancez pas tout seul. Et nous leur offrons un guide biblique qui choisit quelques textes et surtout accompagne les lectures. Et dans notre tête, nous pensons, en ouvrant la Bible au hasard, vous pourriez prendre peur et la refermer tout de suite. C'est vrai. Mais pourtant, ce n'est pas ce message que nous voulons transmettre. Mais bien sûr, la Bible n'est pas un livre de perfection. Mais elle relate les relations entre les hommes et les femmes et leur Dieu. L'humain étant imparfait, faillible et violent, ainsi est sa relation avec Dieu. Mais imaginez ouvrir votre Bible pour la première fois, vers le milieu, et tomber sur le chapitre 9 du livre d'Esther. Que feriez-vous après sa lecture? La même chose que moi, ne plus jamais vouloir entendre parler de cette Bible violente et vengeresse. Eh bien, allez, parlons-en ensemble ce matin. Violence et vengeance sont présentes dans tout le livre d'Esther, mais en particulier dans ce chapitre 9. Esther, donc, petit livre de l'Ancien Testament, qui narre comment une jeune juive, sous la coupe de son oncle Mardoché, va réussir à approcher le roi et devenir reine en cachant son identité juive. Par sa détermination, elle arrivera à sauver son peuple de l'extermination décidée par le roi. Nous avons depuis deux dimanches parcouru ensemble les quatre premiers chapitres et nous nous étions arrêtés au moment où Esther décide, malgré le risque de perdre sa vie, de révéler au roi son identité juive et de plaider pour son peuple. Chapitres 5 à 7, Esther réussit à convaincre le roi, et là, renversement de situation incroyable, Aman, souvenez-vous le conseiller véreux du roi, qui par jalousie envers Mardoché avait fait décider l'extermination des Juifs, est finalement pendu à la place de Mardoché. Et Mardoché, lui, est honoré et prend du pouvoir. Chapitre 8, le roi autorise les Juifs à défendre leur vie. Et voilà notre chapitre 9. Les Juifs, qui étaient quelques chapitres plus tôt ceux qui devaient être tués, vont eux-mêmes tuer leur ex-supposé exterminateur, le peuple perse. Alors nous le voyons bien, ce qui se réalise dans ce chapitre est impensable du point de vue historique, mais aussi inacceptable de notre point de vue aujourd'hui. Comment entendre une telle délectation à décrire l'agression? Tout est amplifié et décrit avec des détails à profusion. Les verbes évoquant la mort, le nom des enfants d'Aman tués, les corps exposés au regard de tous, le nombre de tués. Et le roi, lui, ne fait que prendre acte du nombre de morts et ne réagit pas au massacre de son propre peuple. Il autorise même Esther, qui le lui demande, à prolonger d'un jour les massacres. On marche sur la tête. Décidément, ce type de lecture, et dans la Bible en plus, nous est difficilement supportable. Déjà que dans Paris Match, on a du mal, alors là. Que faire avec de tels héros bibliques? Nous savons bien que la violence, comme la vengeance d'ailleurs, mais dans une moindre part peut-être, fait partie de nous et est une part incontournable de notre humanité, même si nous essayons par tous les moyens de la dompter. Alors les ambiguïtés de ces personnages peuvent nous aider à réfléchir sur nos propres ambiguïtés. Chrétiens, avec aussi nos accès de violence et de vengeance. Connaissant nos propres ambivalences, comment mesurons-nous l'impact de nos paroles et de nos actes quand elles sont empreintes de violence par ou malgré nous. Plus profondément encore, Esther, pour qui nous avions de la sympathie et même de l'admiration jusque-là, et qui maintenant vient à nous dégoûter, nous révèle finalement que nous n'aimons pas être confrontés à la part sombre de notre humanité. Nous avons un mal fou à intégrer notre violence dans le contenu de notre foi. Et Esther interroge aussi notre regard face au texte biblique. Comment arriver à accepter un passage biblique qui nous résiste et nous rebute? Figurez-vous que certains chrétiens contestent même la présence de ce livre dans la Bible. Et il existe dans certaines Bibles, comme la Tob, traduction œcuménique de la Bible, un livre d'Esther grec, qui a été traduit en grec, donc, 2 siècles plus tard que celui d'Esther, et où les traducteurs ont fait beaucoup d'ajouts. Rêves et prières de Mardochée et d'Esther, par exemple. Ils étaient peut-être un peu comme nous. Un livre biblique violent et sans Dieu était bien gênant, alors il fallait trouver des explications, ajouter des prières par-ci, par-là. Prenez le temps de lire aussi cette Esther grecque. C'est intéressant. Au-delà de cette violence, ce récit d'Esther est une fiction. Il a été écrit pour montrer le dysfonctionnement de l'Empire perse, où le pouvoir n'est pas en mesure de faire appliquer la justice, et où le seul recours des opprimés est de préserver eux-mêmes leur sécurité. Plus largement, ce livre redonne espoir et courage aux minorités qui vivent en terre étrangère. Et encore plus symboliquement, ce livre dit à tous « Rien n'est jamais perdu, un espoir de vivre est toujours possible ». La fin du livre, fin du chapitre 9 et chapitre 10, institue une fête pour le peuple juif sauvé et victorieux, la fête de Pourim, célébrée encore aujourd'hui à la fin de l'hiver, comparée à Carnaval, où les Juifs fêtent joyeusement leur délivrance et leur salut. Cette célébration annuelle est d'abord une façon pour le judaïsme de témoigner de sa confiance en un Dieu plus fort que les pouvoirs oppressifs. Sans défendre la violence dans le livre d'Esther, la fête instituée ici témoigne de la confiance absolue d'un peuple en son Dieu. Et ce, malgré les oppressions répétées subies par ce peuple tout au long de l'histoire. De livres bibliques inconnus, ou en tous les cas anecdotiques, Esther est devenue peut-être pour chacun de nous, au cours de ces 3 cultes, un compagnon sur nos chemins de foi. La belle Esther invite à nous poser des questions théologiques fondamentales pour nos vies de chrétiens et nous oblige à nous positionner dans notre monde aujourd'hui. Quel est le but ultime de ma vie? Qu'est-ce qui me fait avancer? Comment voir et entendre Dieu là où manifestement il n'y est pas? Que faire de mon identité de chrétien? Où est mon courage d'être? Quoi faire avec la violence qui m'habite? Et comment la concilier avec ma foi? Voilà une liste de questions offertes par Esther et auxquelles nous n'aurons jamais fini de répondre, mais qui s'ajoutent gaiement comme autant de fleurs et de points d'eau sur notre chemin. Moi qui aime à dire qu'un chrétien est toujours en marche et jamais arrivé au bout de ses questions, Esther est finalement une excellente source pour nous garder en forme. Malgré qu'une des significations du nom Esther soit cachée, et malgré qu'aucune mention de Dieu ne soit faite dans ce livre,